Il est 18h et c'est l'heure des informations du studio Kalangou, le journal avec Hawa Mouman. Les pluies diluviennes enregistrées à Gaya, région de Dosso, ont englouti près de 650 hectares de riz, un problème pour la couverture des besoins en riz dans la localité. Suite à l'interdiction de circulation de motos pour des raisons sécuritaires dans la zone, une ONG de la place offre des vélos aux guides de Kouré. Objectif, leur permettre de continuer à refouler les girafes loin de l'axe routier. En partie magazine, nous parlerons du report de l'entrée en vigueur de la monnaie unique ECO au sein de l'espace UMOA. La pandémie du coronavirus serait l'une des causes selon l'économiste Soli Abdoulaye. Près de 650 hectares de riz touchés par les inondations à Gaya, région de Dosso, soit environ 3600 tonnes de production endommagée, estime la direction départementale de l'Office national des aménagements hydro-agricoles, une situation qui pourrait impacter la consommation du riz à Gaya et conduire à rehausser l'importation du riz au Niger. C'est ce qu'explique Abdraman Souley, directeur départemental de l'ONAHA de Gaya. Il est au micro de Fadel Alou.
Quand vous prenez les périmètres concernés, comme le périmètre de Gatouani, le périmètre de Sokonji, le périmètre de Kessa, de Gayamon, de Tarawatla, on peut estimer ça à peu près à une superficie d'environ 647 hectares pour une population concernée d'environ 2090 personnes. En termes de production, à peu près 3560 tonnes. Donc cela est une situation vraiment critique. Parce que d'ores et déjà, la consommation locale n'a jamais suffi pour couvrir les besoins alimentaires. Ça sera vraiment un manque à gagner. Donc déjà sur le marché, le prix du riz, surtout le pari, commence à grimper. Parce que dans le département du Dendi, la consommation du riz dans les ménages repose surtout sur la production locale. Ce qui veut vouloir dire qu'on va encore plus importer que par le passé. Ça amène le désœuvrement. Et le désœuvrement, souvent, c'est l'exode, c'est l'oisivité et tous ces contraires.
Région d'Agadez, les populations d'Ingal, la commune haute de la Cure Salée, n'ont pas apprécié l'annonce de l'annulation de l'édition de cette année par le gouvernement nigérien. Selon le maire d'Ingal, cette décision portera un coup dur à l'économie de la dite commune. Agali Tchaman est joint au téléphone par notre correspondant Moussa Maman.
Depuis l'annonce de l'annulation de la Cure Salée, les gens n'apprécient pas le fait que cette décision est tombée comme ça. Que l'annulation constitue pour notre commune ça nous impacte puisque nos acteurs économiques ici, nos artisans qui vendent leurs articles, les restaurateurs qui vendent les plats qu'ils font, les gens des gains, les commerçants qui vendent leurs ici, leurs étoffes, tous ces gens-là, ils constateront un manque à gagner. C'est comme la saison touristique, quand on dit à pas saison, là, les commerçants, les artisans, les hôteliers, tout c'est un manque à gagner. Alors, c'est la même chose ici. Il y a des gens qui se font des idées, des pronostics, des chiffres d'affaires à réaliser. Évidemment, nous faisons des recettes sur tous ces mondes-là, que ce soit les taxes de recouvrement qu'on prend sur tous ces beaux mondes-là. Que ce soit les montagnes Kabou-Kabou qui sont venus. Et les marchés aussi retrouvent un certain regain d'activité.
Don de vélos et vivre au guide de Kouré, région de Tillabéri, par une ONG nigérienne le week-end dernier, selon le vice-président de l'association de ces guides. Ces bicyclettes leur permettront de se déplacer dans cette zone où les motos ont été interdites de circulation pour des raisons sécuritaires. Ousseini Idrissa est joint au téléphone par Nafissa Adamou Sirfou.
L'ONG Niger Mzada a remis à chacun un sac de maïs, un sac de mil, deux sacs de riz et un vélo pour suivre les girafes afin qu'elles ne restent pas sur le goudron qu'elles fréquentent plus en cette saison des pluies occasionnant des accidents. Ces vivres sont venus à point nommé, car récemment, vous le savez, le site a été fermé, nous privant ainsi de sources de revenus pour entretenir nos familles. Avant ce drame, nous utilisions matin et soir des motos pour chasser les girafes du goudron. Mais après l'interdiction de la circulation en moto, nous avons demandé des vélos. Et maintenant, nous utilisons ces vélos entre les villages de Chudawa, Kure et Chubi pour effectuer ce travail. Certes, c'est difficile à vélo, mais on ne fait pas son travail. C'est un sacrifice pour le pays.
<t'-> Le président de la République Issoufou Mamadou a signé hier le décret convoquant le dimanche 27 décembre 2020 le corps électoral pour les législatives de 2020. Ce décret intervient après celui en date du 11 septembre dernier, convoquant aussi le corps électoral pour les élections locales. C'est donc officiel, les élections locales se tiendront le 13 décembre prochain après une campagne électorale de 10 jours à partir du 2 décembre 2020 à minuit. Pour les législatives, le scrutin est fixé au 27 décembre et la campagne électorale débutera le 5 décembre à 0h pour s'achever le 25 décembre prochain à minuit. Le communiqué a été publié par le quotidien Le Sahel. Dans le cadre de l'émergence politique des femmes au Niger, une convention a été signée officiellement le 11 septembre dernier à Niamey, 30 partis politiques tous bords confondus. Une cérémonie organisée par l'ONG Femmes, Action et Développement en vue de rehausser la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Madame Elbak Zainabou Taribako, ministre de la Promotion de la Femme au micro de Rekia Arimi.
Nous avons tout fait pour rehausser le quota de la femme. Aujourd'hui, il est à 25% pour les postes électifs, pour les postes nominatifs de 25% à 30%. Et si nous avons des ONG qui aujourd'hui prennent le relais pour véhiculer cette information, nous ne pouvons que saluer. Parce que l'ONG FAD, c'est une jeune ONG, mais qui a beaucoup d'initiatives. Et nous remercions vraiment ces jeunes femmes qui aujourd'hui sont là pour faire en sorte que la femme nigérienne soit en tout cas sur la scène politique. Et vous voyez, cette ONG a pu rassembler presque toutes les tendances confondues, qu'elles soient de l'opposition, les non-affiliés, la majorité, et toutes ces femmes sont là avec leur leader à côté. Elles signent et à la satisfaction de l'ensemble des femmes nigériennes. Leur tendance, c'est de pouvoir vraiment faire avancer les choses.
Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a rendu public lundi 14 septembre 2020 la liste des candidats autorisés à participer à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Sur les 44 candidatures, seules 4 ont été retenues, dont celle d'Alassane Ouattara. Les dossiers de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ont été écartés du scrutin. Ce rejet massif de candidatures est sans grande surprise, a déclaré Sylvain Nguessan, analyste politique et responsable de l'Institut des stratégies d'Abidjan. Il est joint au téléphone par Mokhtar Amadou.
Pour la grande majorité de ces candidats, l'observateur s'attendait plus ou moins à ce que leur candidature ne passe pas le tour du Conseil constitutionnel, dans la mesure où le code électoral rendu public en avril 2020 avait apporté certaines innovations, dont deux majeures, le plafond de cautionnement de la candidature à 50 millions de francs CFA et le parrainage de l'électorat à 1% dans 17 de nos régions. Pour ce qui est de M. Laurent Gbagbo et de M. Soro Guillaume, à partir du moment où en jeu leur nom a été retiré de la liste électorale, on s'attendait plus ou moins à ce que leur candidature soit rejeté. Mais pour certains, c'était quand même la grande surprise, comme pour le professeur Mamadou Coulibaly du parti leader. Malheureusement, le Conseil constitutionnel va nous dire qu'il n'a réuni le parrainage que dans 15 régions sur 17, donc sa candidature a été rejetée. La grande surprise, c'est la candidature de M. Kwadio Konan Bertin. On se demande comment il est parvenu à avoir le parrainage dans 17 régions, contrairement à certains acteurs de la scène politique.
Au sortir du sommet tenu à Accra le mardi entre la CEDEAO et la junte militaire malienne, cette dernière de retour au Mali a convoqué un point de presse pour rendre compte à la population. Notre option avouée est d'être du côté de la majorité qui veut une transition militaire, a déclaré leur porte-parole. Nous tenons aussi compte de la logique de la CEDEAO, a poursuivi le colonel-major Ismaël Ouag, qui ajoute « Toutes les options sont sur la table ». Par ailleurs, les chefs d'État ont pris note sur la durée de 18 mois de transition convenue dans la charte de transition adoptée. Toutefois, la CEDEAO, qui n'a pas fait d'objection concernant le poste de vice-président, également mentionné dans la charte, indique que ce dernier ne pourra pas remplacer le président de la transition en cas de vacance du pouvoir. À présent, la situation nationale de la maladie à COVID-19, selon les communiqués du ministère nigérien de la Santé publique, entre le jeudi 10 septembre 2020 à la date d'hier, 4 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été enregistrés sur 1336 tests réalisés en une semaine. Depuis le début de la pandémie, le 19 mars 2020 à aujourd'hui, le Niger a recensé 1182 personnes déclarées positives au COVID-19 sur un total de 17 961 testés. Actuellement, on compte 69 personnes décédées, 1104 sorties guéries et 9 en cours de traitement, a précisé l'autorité sanitaire du Niger. Depuis l'apparition des appareils et téléphones Android, le métier de photographe tend à disparaître selon Idrissa, un photographe de Balayara, région de Tillabéri. Ce métier ne nourrit plus son homme. Il a souligné que maintenant, toute leur activité se résume aux photos d'identité, des propos recueillis par Seydi Abdoui Dintan.
Avant, c'était un métier rentable, car à l'occasion d'une seule fête, tu peux avoir jusqu'à 50 000 francs. Mais maintenant, avec l'avènement des smartphones, les gens ne font plus les photos ordinaires. Ils s'envoient mutuellement leurs photos. En dehors des photos de carte d'identité, et ça aussi pour les voyageurs, nous n'avons pas de clientèle. Cela est dû au changement de mentalité, car à cause de la religion, beaucoup de personnes n'aiment pas la photo. C'est vraiment dur pour nous qui sommes obligés de nous contenter des miettes que nous récoltons ici et là pour survivre.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Parti Magazine, le 57e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu le 7 septembre 2020 à Niamey, a décidé d'adopter une nouvelle feuille de route pour le lancement de l'éco, la nouvelle monnaie qui en principe devait entrer en vigueur le 1er juillet passé au sein de l'espace UEMOA. Selon l'économiste Soli Abdoulaye, la maladie de la COVID-19 est incontestablement l'une des causes du retard dans le lancement de cette nouvelle monnaie unique, l'éco. Il est interrogé par Mokhtar Amadou.
Dans les critères qui permettent d'adopter cette monnaie, il y a des critères qu'on appelle les critères de convergence. Certains reposent sur, par exemple, l'endettement, sur le niveau de déficit budgétaire. Or, la COVID-19 a poussé les pays à s'endetter pour prendre en charge un certain nombre de situations. Parce qu'il y avait une restriction de mouvement des gens, restriction de mouvement des capitaux, de mouvement des marchandises. Ça veut dire que tous ces pays de la CEDEAO vont ressentir une décélération de leur croissance économique. Le déficit budgétaire s'est accru. Donc, les critères de convergence ne peuvent pas être remplis pour beaucoup de pays, même pour ceux qui sont déjà dans la ligne de remplir ces critères vont revenir à une case en tout cas arrière.
Le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron avaient annoncé le 21 décembre 2019 la mise en place de l'éco au sein de l'UEMOA. S'achemine-t-on vers une monnaie unique de la CEDEAO avec ce report?
Même la France, vous savez très bien, quand elle avait surgi avec la complicité de Ouattara pour dire qu'on va transformer le franc CFA en éco, et je l'ai rappelé que la France elle-même n'était pas sérieuse avec elle-même. Parce que transformer la monnaie, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas la même chose que dévaluer une monnaie. Mais quand on dit on va la changer, c'est beaucoup de choses. L'objectif que la France poursuivait dans cette action, c'était uniquement de créer une confusion pour que les ressortissants des pays de la CEDEAO se mettent maintenant à douter. Et je suis certain que lors de ce sommet, on a analysé la situation. Ils ont dit ce qu'ils veulent se dire entre eux parce qu'il y a des choses qui se sont passées en huis clos. Alors, ce qui est sûr, on n'a pas abandonné le projet. L'euro que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas un processus de 20 ans, de 30 ans. C'est un processus de plus de 75 ans. Ça veut dire que c'est un processus qui prend du temps. Mais l'important, c'est le déclic. C'est le fait que il y a des chefs d'État qui ont pensé qu'il nous faut une monnaie unique parce qu'une monnaie unique est importante pour notre développement. Et donc là, quel que soit le temps que ça va prendre, quelle que soit la résistance qu'on va avoir de l'extérieur, on va aboutir à cette monnaie unique parce que les chefs d'État passent, les pays restent. Et chaque époque qui vient, c'est avec des nouvelles mentalités, c'est avec des nouvelles forces politiques, intellectuelles sur le continent. Donc ça veut dire que tôt ou tard, on va céder, on va avoir la monnaie unique.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.